Bonjour à tous. À la une ce matin, Paris en forme olympique. La France est à quelques heures de décrocher l'organisation des Jeux 2024. Après trois échecs consécutifs, nous irons au Pérou avant le vote final du CIO ce soir. On écoutera également l'optimisme des futurs athlètes. Comment faire baisser les APL sans faire hurler les locataires? Cela passe peut-être par un gel du taux du livret A. On vous explique tout dans ce journal. La PMA pour toutes les femmes dès l'an prochain en France. Le gouvernement confirme qu'il compte bien étendre la procréation médicalement assistée. La manif pour tous est prête à redescendre dans la rue. Dans 20 minutes, votre invité, Nicolas, il est ce qu'on appelle un constructif et il nous dira, ça tombe bien, comment il compte reconstruire la droite.
Mais oui, Thierry Soler, casque, manche retroussée sur le chantier idéologique de la droite et au micro d'Inter, vos questions 01 45 24 7000.
Dans ce journal également, la suite de la visite d'Emmanuel Macron dans les Antilles ravagées par Irma, la crise humanitaire des Rohingyas en Birmanie qui s'invite aux Nations Unies, réunion du Conseil de sécurité aujourd'hui, et puis un film noir et à 100 à l'heure à découvrir aujourd'hui au cinéma. Près d'un siècle d'attente, quelques échecs mémorables, mais cette fois c'est fait à 20h ce soir. C'est bien le nom de Paris qui sortira du chapeau pour organiser les Jeux Olympiques 2024. Le vote du CIO, réuni à Lima au Pérou, ne fait plus aucun doute au terme d'un Yalta olympique qui accordera à Los Angeles l'organisation des Jeux suivants en 2028. Paris est à la fête, les bouteilles de champagne sont déjà au frais, mais pas question de crier victoire trop tôt dans la délégation française. Elle va soigner son dernier grand oral aujourd'hui. Aujourd'hui, au Pérou, Rémi Brancato.
Oui, même si l'issue du vote ne fait aucun doute, c'est la règle. Chaque ville doit présenter à nouveau son projet devant les membres du CIO pendant 25 minutes aujourd'hui. Cette ultime présentation, ce sera juste avant 13h, heure de Lima, 20h, heure de Paris, dans ce centre des conventions de la capitale péruvienne. Côté parisien, 8 intervenants seront sur scène. Anne Hidalgo, la maire de Paris, Tony Estanguet, le coprésident du comité de candidature. Emmanuel Macron n'a pas fait le déplacement, mais il a envoyé une petite vidéo. Il y aura aussi trois petits clips avec l'apparition de plusieurs personnalités. L'acteur Jean Dujardin et la star brésilienne Neymar du PSG, nous dit-on. Parce que même si l'accord qui offre 2028 à Los Angeles et 2024 à Paris sera ratifié, il faut finir le travail pour Laura Flessel, la ministre des Sports, qui peaufine encore son discours.
Il y a quand même, je dirais, un passage devant nos pairs une dernière fois. Et c'est vrai qu'il y a de l'excitation, il y a de la sérénité, mais il y a surtout beaucoup de fierté et de la retenue. Parce que derrière, on a des souvenirs moins drôles et donc du coup, on a envie que ces pansements qui restent en fait dans nos cœurs et dans nos têtes s'envolent définitivement.
Les pansements qui avaient été posés sur les plaies des dernières candidatures ratées, le souvenir de 2005 quand Londres rafle les Jeux de 2012 est encore brûlant. Cette fois, Paris a affiché moins d'arrogance et elle fera la fête sereinement ce soir chez Astrid et Gaston, un restaurant gastronomique de Lima.
Voilà, Rémi Brancato avec Nicolas Mathias. Pour la France, c'est une forme de revanche, même si l'essentiel, on le sait, c'est de participer. Paris restait sur trois échecs. Aujourd'hui, l'affront est lavé et chez les plus jeunes, ceux qui seront peut-être les stars de Paris 2024, on a déjà de l'or olympique plein les yeux. Reportage Guillaume Batin.
Sur la piste d'entraînement du stade Charletti dans le 13e arrondissement, Moussa, jeune joueur du Paris Football Club, n'a aucun doute, Paris aura et mérite les Jeux Olympiques en 2024.
Pour les Jeux de 2012, j'étais vraiment déçu déjà de ne pas pouvoir les organiser. Donc là, c'est une chance pour la France, surtout pour Paris. C'est un grand moment, ouais.
Pas de doute non plus pour Joé et Audrey, 18 et 19 ans, jeunes espoirs du tennis de table tricolore.
Ouais, ça fait vraiment rêver quand tu penses, quand je vois les vidéos qu'ils font sur la préparation de ces jeux, ça fait rêver. Je crois que dans une vie, on n'en a pas deux, des compétitions comme ça, donc j'ai des étoiles dans les yeux, vraiment.
Ça me tient vraiment à cœur, en plus ça va être dans ma ville. Enfin, l'ouverture de cérémonie, ça va être à Saint-Denis, à 5 minutes de chez moi, c'est ma ville. C'est tellement beau, imaginons que je suis qualifiée, mes parents pourront venir. Voilà, ça représente les JO, ça représente tellement la consécration d'un sportif que si c'est en France, bah, c'est vraiment, ça va être vraiment bien, quoi.
Joé, Audrey et Moussa attendent sereinement le résultat du vote de ce soir, qu'ils suivront tous les trois sur les réseaux sociaux.
Paris qui retrouve donc les Jeux d'été pour la première fois depuis 1924, ça mérite bien une petite fête. Le rendez-vous est fixé ce soir sur l'esplanade du Trocadéro à Paris, où seront dévoilés les 5 anneaux olympiques en priant pour que la pluie ne gâche pas la fête. Des cérémonies également à Marseille, qui accueillera des matchs de foot et les compétitions de voile. Plusieurs sites de la ville seront illuminés ce ce soir.
Il est 8h05, c'est la question du jour, Marc. Comment baisser les APL sans faire hurler les locataires?
Ce n'est pas encore une discipline olympique, mais la chasse aux économies bat son plein en France. En ce moment, c'est le secteur des aides au logement qui est dans le viseur du gouvernement. Et on commence à y voir un peu plus clair sur ses intentions. Les APL pourraient baisser d'une cinquantaine d'euros par mois pour tous ceux qui habitent en HLM. Mais dans le même temps, les bailleurs sociaux seraient contraints de baisser les loyers du même montant. Ce serait donc indolore pour les locataires, mais les offices HLM seraient les grands perdants. Pour calmer leur colère, le gouvernement devrait faire un geste sur le taux du livret A qui sert à financer la construction de logements sociaux, actuellement financé à fixer à 0,75%. Il serait bloqué ce taux pendant 2 ans, un tour de passe-passe que dénonce la Fondation Abbé Pierre par la voix de Christophe Robert.
On peut pas mettre en difficulté le modèle économique du logement social qui, en fait, grâce à des avantages de la puissance publique, des aides, des avantages de taux, etc., on arrive à faire sortir des logements en dessous du marché pour les proposer aux ménages qui ont besoin d'être aidés par la collectivité. Ça fait 100 ans qu'on produit du logement social, c'est un super modèle. Si on fragilise complètement le modèle en disant « allez, on va baisser », mais qu'à terme, du coup, les loyers rentrent moins et donc la capacité de produire pour les 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans à venir, n'est pas assuré. On aura gagné à court terme, mais on n'aura pas véritablement permis d'asseoir complètement ce dispositif qui fonctionne bien depuis très longtemps. Donc il faut être très prudent, nous semble-t-il, dans les choix et les arbitrages qui vont s'opérer maintenant.
Le délégué général de la Fondation Abbé Pierre, Christophe Robert, avec Maxime Debs. Rendez-vous dans 8 jours pour le match retour. Après les manifestations d'hier contre la réforme du Code du Travail, la CGT appelle à redescendre dans la rue le 21 septembre, c'est jeudi de la semaine prochaine. Hier, le syndicat a compté 400 000 manifestants dans toute la France, quand le gouvernement lui en a recensé précisément 223 000, soit exactement le même nombre que lors de la première manifestation contre la loi Travail l'an dernier. Bref, pas de quoi faire bouger l'exécutif, c'est ce que vient de dire Édouard Philippe.
Où est la démocratie si lorsque le Parlement, qui est empreint de la légitimité populaire, vote une loi d'habilitation disant au gouvernement, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Où est la démocratie si l'on conteste systématiquement la majorité parlementaire? Donc, j'entends les manifestations. Il y a encore un certain nombre d'éléments à discuter, parce qu'il y a toujours des éléments à discuter dans une démocratie. La mise en œuvre de ces ordonnances, les moyens qui seront accordés à l'ensemble des institutions qui font vivre le dialogue social. Et les syndicats le savent parfaitement, nous l'avons dit publiquement, donc il n'y a aucun sujet là-dessus. Mais le texte des ordonnances tel qu'il a été présenté, il correspond à la loi d'habilitation qui a été votée par le Parlement. Donc nous allons les présenter au Conseil des ministres le 22 septembre, le président les signera. Et à la fin du mois de septembre, le texte sera entré en vigueur.
Le Premier ministre Édouard Philippe, il y a quelques minutes chez nos collègues de France 2.
France Inter 8h08, Saint-Martin hier, Saint-Barthélemy aujourd'hui et partout le même message. Emmanuel Macron poursuit sa visite au chevet des sinistrés d'Irma.
Rassurer, consoler, mais aussi entendre la colère. Voilà les mots du président hier à son arrivée sur place. Il a défendu l'action du gouvernement et des services de l'État et promis de tout faire pour reconstruire au plus vite et tenter de retrouver une vie normale. Julie-Marie Lecomte.
Des gravats partout qui encombrent les maisons, s'entassent sur les bas-côtés. Les habitants travaillent à main nue et réclament de l'aide. Dans la chaleur moite, Emmanuel Macron mouille la chemise.
Génie arrive. On pourra le déployer là assez vite pour qu'il déblaye les arbres, les choses comme ça.
On va faire en sorte qu'il le fasse le plus rapidement possible et très rapidement.
Qu'est-ce qui est raisonnablement envisageable,
Monsieur le Président? En moins de 24 heures, il y aura des éléments de reconnaissance qui viendront déjà aider. Ensuite, les engins lourds sur arrivent.
Très bien. Parfait.
Mais les gens croulent sous la tâche, épuisés, envahis par un sentiment persistant d'abandon. Quand la colère n'explose pas, elle est froide.
Moi j'ai l'impression, sincèrement monsieur, et je ne vais pas dire monsieur le président parce que je ne peux pas, pour moi de l'extérieur, et je ne suis peut-être pas la seule, pour moi vous êtes sur une tour d'ivoire et vous descendez de temps en temps. J'avais besoin de vous le dire entre quatre yeux, sincèrement.
Je suis là pour ça aussi.
Emmanuel Macron en caisse, il met près de 4 heures à remonter une seule rue dans le quartier de Grand Cap. Il avance maison par maison, un mot pour chacun, les yeux dans les yeux.
Je vis des choses et je suis là. Ma place en tant que président, c'est d'être aux côtés des Français et des Françaises qui souffrent.
Il s'attendait à en prendre plein la gueule, souffle un membre de la délégation. Lui qui promet de reconstruire vite et mieux s'engage, il reviendra avant un an. À Saint-Martin, Gilles Gallinaro, Julie-Marie Lecomte, France Inter.
Les signes de ce très lent retour à la normale, l'aéroport de Saint-Barthélemy a pu rouvrir hier soir aux vols commerciaux, ce qui va permettre d'accélérer l'évacuation des sinistrés.
La gauche applaudit, les associations s'impatientent et la manif pour tous s'étrangle.
Voilà résumé à très grand rentrée, les réactions à l'ouverture annoncée de la PMA à toutes les femmes l'an prochain en France. Confirmation d'une promesse du candidat Macron, les femmes seules et les femmes en couple pourront bientôt recourir à la procréation médicalement assistée pour avoir un bébé. Jusqu'ici, seuls les couples hétéros souffrant d'infertilité avaient cette possibilité. La décision est saluée par la plupart des associations gays et lesbiennes et par les femmes qui jusqu'ici devaient se rendre à l'étranger, en Espagne ou en Belgique, pour tenter une PMA. C'est le cas de Marie. Avec sa femme, elle ne demande plus qu'une chose aujourd'hui, une loi et vite.
François Hollande l'a reporté d'année en année. On a eu plusieurs projets de loi, la loi sur le mariage pour tous, la loi famille, à chaque fois maintenant la loi bioéthique. C'est vrai qu'on a été très échaudés par ces 5 ans de violence dans la rue, d'insultes. Aujourd'hui, on attend vraiment une loi rapidement, puisque aujourd'hui, c'est une vraie question d'égalité, c'est pas une question d'éthique ou de bioéthique. La PMA existe en France aujourd'hui. Pourquoi ne pas l'étendre à toutes ? C'est une question d'égalité et de justice.
Témoignage recueilli par Alain Gastal. Ne pas revivre les cortèges de la manif pour tous, dit cette femme, eh bien ça semble mal engagé, car du côté des opposants, on prévient déjà qu'il faut s'attendre à de nouveaux cortèges. Tuc d'Hualderville, ex-porte-parole de la manif pour tous.
On est obligé de se mobiliser, je vous le dis, au nom du droit de l'enfant, nous le ferons. Nous nous situons, nous, du côté de l'enfant et nous interrogeons, sachant que depuis l'origine de notre humanité, eh bien cette parité homme-femme dans l'engendrement, c'est un repère fondamental et que notre société, on le sait, on le voit bien, souffre beaucoup parce que en France, beaucoup de femmes seules élèvent des enfants et en souffrent. Et aussi, et nous ne pouvons pas les oublier et les omettre, beaucoup d'enfants souffrent de ne pas avoir de père ou de ne pas connaître leur père.
Tuc d'Hualderville, qui était l'un des invités du 5-7 ce matin avec Hélène Roussel, les associations familiales catholiques, elles demandent au gouvernement de ne pas rouvrir inutilement ce débat de société. On estime qu'aujourd'hui environ 25 000 enfants naissent chaque année grâce à la PMA. En Corse, cela faisait 4 ans qu'il était en cavale. Un homme soupçonné d'avoir attaqué la caserne de gendarmerie d'Ajaccio en 2013 a été arrêté hier. L'attaque intervenait juste avant une visite sur place du Premier ministre Manuel Valls. Elle avait été perpétrée, on s'en souvient, à la roquette anti-char.
8h12, début de dialogue peut-être au Venezuela.
Après des mois de crise politique et de violence qui ont fait 125 morts, le gouvernement et l'opposition se retrouvent aujourd'hui en terrain neutre, en quelque sorte en République dominicaine, pour engager enfin des pourparlers. Toujours à l'étranger, l'ONU au chevet des Rohingyas, cette minorité musulmane persécutée en Birmanie. Ils sont plus de 300 000 à avoir fui le pays ces dernières semaines, dans des conditions humanitaires absolument épouvantables. Le Conseil de sécurité de l'ONU va se pencher aujourd'hui sur leur sort. Bertrand Galichet.
Un exemple classique de nettoyage ethnique, dit le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme pour décrire le sort réservé aux Rohingyas. Les autorités birmanes refusent l'accès à cette zone, mais l'ONU parle de villages brûlés, d'exécutions sommaires et de tirs sur des civils en fuite. Ces exactions commises dans un pays à 90% bouddhiste choquent le Dalai Lama.
Ces gens qui font une sorte de harcèlement contre des musulmans doivent se rappeler que Bouddha, dans de telles circonstances, aurait aidé ces pauvres musulmans. C'est ce que je ressens, donc c'est très triste, très triste.
Le Dalai Lama qui parle d'une opération militaire cruelle et appelle la Birmanie à y mettre un terme. La dirigeante Aung San Suu Kyi est directement mise en cause par l'Iran. L'ayatollah Khamenei estime que les violences contre les Rohingyas marquent la mort du prix Nobel de la paix. Malgré les critiques qui pleuvent de toutes parts, la dirigeante birmane soutient l'armée et assure que les terroristes propagent de fausses informations. Aux Nations Unies, elle peut compter sur l'appui de la Chine au nom de la stabilité dans la région.
Aung San Suu Kyi pointée du doigt pour son silence. Elle devait s'exprimer dans quelques jours à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies. On a appris cette nuit qu'elle annulait son déplacement à New York. Enfin, toujours au chapitre des droits de l'homme, mais cette fois aux Philippines, le président Rodrigo Duterte est lancé dans une lutte à mort contre la drogue au prix d'exécutions sommaires de trafiquants ou de toxicomanes. La commission locale des droits de l'homme, organe indépendant, souhaitait lancer une enquête. Cette nuit, le gouvernement vient de la museler en lui coupant les vivres. Son budget pour 2018 est ramené à 1000 pesos, l'équivalent d'une petite quinzaine d'euros seulement.
5 buts marqués, aucun encaissé. La soirée parfaite du PSG.
Pour leur entrée en lice en Ligue des Champions, les Parisiens sont allés battre les Écossais du Celtic Glasgow 5-0. Dans le même temps, Barcelone a écrasé la Juve 3-0 ce soir. C'est Monaco qui joue en Allemagne à Leipzig. Enfin, un film noir tout droit venu des États-Unis. C'est l'une des sorties ciné de la semaine repérée par le service culture de France Inter. Good Time, signé des frères Safdie. Pas très connu du grand public, celui qui l'est un peu plus, en revanche, c'est l'acteur qui tient l'affiche, Robert Pattinson, l'ex-star de la série Twilight. Il incarne un braqueur en fuite qui vole pour aider son frère. Eva Bettan nous promet un très bon moment.
Ils sont mignons tout plein, ces deux frères qui s'aiment tant. Et si Connie entraîne son frère Nick dans un braquage, c'est pour avoir les moyens d'assurer à ce dernier, légèrement handicapé, une vie tranquille. Brigands par amour, il n'y a que deux frères cinéastes pour avoir une idée pareille. L'un des frères, Josh Safdie.
Le fait que pendant tout le film, Connie fait des choses mauvaises pour faire du bien à son frère apporte de la tendresse. Enlevez la relation avec son frère et vous n'accepterez rien de ce qu'il fait.
Rangez vos mouchoirs. Quand ça va mal se passer, Connie va en effet pouvoir se montrer très méchant. Tendre et dur, cocktail gagnant d'un polar impeccable dans lequel il n'est pas interdit de voir aussi la peinture d'une autre Amérique, celle des laissés-pour-compte qu'affectionnent les frères Safdie qui ont su faire bon usage du désir de Robert Pattinson de tourner avec eux.
L'idée d'un artiste célèbre et le fait d'utiliser cette célébrité pour jeter la lumière sur des univers qui ne sont pas montrés dans les films des studios, c'est très excitant pour nous parce que ça permet de jouer à infiltrer l'idéologie dominante.
Robert Pattinson y a aussi gagné, c'est son meilleur rôle.
Good Time dans les salles de cinéma aujourd'hui, et c'est un film soutenu, défendu, aimé par France Inter.
Et Good Time dans le 7-9 d'Inter aussi.